Chapitre 63. Le 23 août 2016, 20h52. Les lacets défilaient presque au ralenti. La Fuego respectait scrupuleusement les limitations de vitesse. Son conducteur n'éprouvait ni le besoin d'accélérer, ni celui de ralentir. Il avait programmé le GPS, et il savait que s'il ne commettait aucun excès, s'il suivait à la lettre les indications de la voix de robot qui le guidait, alors, à très exactement 21h02, la Fuego atteindrait le premier virage de la corniche de la Petracoda. Dans 9 minutes, tout serait fini. Un peu plus tôt que prévu pour lui. Son médecin parlait plutôt de 9 mois. La Passat se rapprochait de la départementale 81. La route serpentait moins, s'éloignait un peu du littoral. Clotilde parvint à accrocher une 5e vitesse, à frôler les 100 km/h, le temps de quelques centaines de mètres avant de rétrograder. Elle avait coincé le téléphone portable entre ses cuisses. « C'est Hermann !» cria Clotilde dans l'habitacle. « Cet enfoiré de cyclope !» Cassanou se tourna vers elle. « Hermann Schreiber !» Clotilde ne quittait pas la route des yeux. « Oui, c'est lui qui les a tués, qui va recommencer dans moins de 10 minutes si on n'arrive pas à temps, qui a enlevé Valou et maman !»«
Impossible !»
20h53. « Oh non, papé, pas impossible. J'ai eu ce salaud d'Hermann Schreiber hier au téléphone et... » Son grand-père posa une main sur sa cuisse.
« C'est impossible, Claude. Je t'assure, tu n'as pas pu parler hier à cet Allemand. »
Il prit une longue inspiration.
« Hermann Schreiber est mort en 1991, 18 mois après l'accident de tes parents. Il n'avait pas 20 ans.
20h54. La Fuego passait devant la falaise de Capo Cavallo, 6 km au sud de la Revelata. Arrivée à 21h02, indiquait le GPS collé sur le pare-brise. L'écran du logiciel de navigation dessinait en version miniature et stylisée le paysage qui s'ouvrait. Une mer bleue électrique, une montagne vert kaki, un ciel café crème. Une représentation à la fois fade et criarde, aussi laide, pensa Jacob Schreiber, que la réalité était sublime. Devant lui se détachait la Revelata, le phare, la citadelle de Calvi, que le soleil couchant faisait rougir comme une fille que la timidité embellit. Il ralentit un peu pour profiter quelques secondes du panorama. Tant pis pour le respect précis du chronomètre du GPS, il rattraperait son retard, en accélérant après la Punta di Cantatelli. Ce paysage était sûrement la seule chose sur cette terre qu'il regretterait. La route tourna à nouveau vers la montagne, longeant un maquis sec et des vaches maigres. Il accéléra. Au fond, penser en termes de regrets aux prochaines minutes, au grand saut, était stupide. Même si Clotilde Idrissi n'était pas revenue il y a 5 jours pour rouvrir les plaies à peine cicatrisées, cet été 2016 aurait été le dernier. De toutes les façons, le plus vieux résident du camping des Euproctes aurait tiré sa révérence. Ici, en Corse, plutôt que de crever à petit feu dans la clinicum de Leverkusen. Autant se faire sauter la caisse dans un décor de paradis, puisque personne ne pouvait être certain qu'il en existe un après la mort. 9 mois maximum, avait affirmé son médecin. La première alerte, la première tumeur, s'était glissé un peu au-dessus de son foie, il y a 8 ans. On lui avait nettoyé l'œsophage comme on débouche une gouttière au Kärcher. Mais la pluie acide avait continué de tomber sur le pancréas, le poumon, l'estomac. La tumeur avait gagné. Il pensait même qu'elle triompherait avant. Il avait toujours cru qu'il ne survivrait pas plus de 5 ans à sa retraite, quand le comptable de Bayer lui avait annoncé qu'il toucherait une prime de 300 marks par mois dès qu'il quitterait l'entreprise. Pour exposition pendant toute sa carrière aux produits infectants, solvants, polluants. Il avait tenu près de 15 ans. Il était cadre. Il surveillait les chaînes de fabrication à travers des écrans. Heureusement pour Bayer, quand il partait en retraite, les ouvriers employés à la manutention des produits et au nettoyage des cuves coûtaient moins cher que lui à l'entreprise. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, se demandant si les passagères se doutaient de ce qui les attendait. Palma avait compris, forcément. La Fuego Rouge, la destination affichée sur le GPS, sa fille à l'arrière. Les indices étaient explicites. Valentine avait sûrement réalisé, elle aussi. Elle était au courant de tout, maintenant. Elle avait lu le cahier de sa mère. Elle demeurait calme, pourtant. Mais que pouvait-elle faire d'autre, attachée telle deux sapins de Noël dans un filet? Seulement espérer que cette balade ne soit que du bluff, une mauvaise blague, une mise en scène. Ou que, depuis 1989, le parapet de la corniche de la Petracoda ait été renforcé. Il arrivait en vue de la baie de Nikyareto. Jacob Schreiber maintenait sa vitesse de croisière. Ces derniers jours, la relecture du journal de Clotilde page après page avait ravivé les braises de sa haine. Même si, au fil des années, jamais elle ne s'était complètement éteinte. Son fils, Hermann, n'était responsable de rien. Tout était de la faute de Maria Tiara, de Nicolas, de Cervone, d'Aurelia, de tous les autres ados de la tribu, lors de cet été 89, de leur mépris, de leur égoïsme. Ils n'avaient rien inventé. Clotilde l'avait parfaitement décrit dans son cahier. Ce sont eux qui avaient nourri cette colère, cette jalousie, cette folie. Sans cela, rien ne serait arrivé. Son fils était un garçon gentil, sérieux, travailleur, bien éduqué. Au collège catholique de la Lise-Meitner-Schule, puis au lycée Werner Heisenberg de Leverkusen, chez les Louveteaux dès l'âge de 6 ans, chez les pionniers à moins de 15, toujours une écorce à sculpter dans la main, un caillou brillant dans la poche, un brin d'herbe entre les dents. Hermann était plus doux que la moyenne. Il aimait la musique, il aimait la beauté. Il apprenait le solfège, le violon. Il peignait des marines, des ciels très pâles, aux couleurs délavées, dans un atelier dirigé par un aquarelliste en retraite du musée Morsbroich. Hermann était fils unique. Il aimait se fabriquer un monde rien qu'à lui, bâtir un univers à partir de trésors ramassés au hasard. Il n'avait pas affiché sur les murs de sa chambre des posters de tennisman, de chanteur ou de Formule 1, mais les dizaines de pages d'un herbier qu'il enrichissait mois après mois. À 10 ans, il avait eu l'idée d'une collection magnifique, une collection d'étoiles, toutes celles qu'il pouvait trouver. Des étoiles de mer, des étoiles dorées dont on décorait les sapins, des étoiles de shérif, des étoiles photographiées de nuit au cœur de la forêt, des étoiles imprimées sur des drapeaux, sur des affiches, sur des romans. Hermann était un élève brillant. Il avait été admis à l'école polytechnique de Munich en art appliqué. Hermann était à la fois un artiste et un artisan. Il s'intéressait au fonctionnement des choses, la physique, la mécanique, mais était avant tout attiré par la beauté, la matérialité de la beauté. Persuadé que la nature était le plus grand génie créatif que la Terre ait connu, qu'elle seule parvenait à l'harmonie ultime, la perfection, que les hommes devaient se contenter de l'admirer, s'en inspirer, s'en nourrir. Hermann était un être simple et droit. Seul souvent, timide, secret, incompris, mais il ignorait le mensonge. Il ignorait le mal. Ce sont les autres, tous les autres qui lui avaient appris. Ceux de son âge. Hermann ignorait leur code. Hermann était trop fragile. Hermann voulait seulement être comme eux, accepté, le temps d'un été. Il ignorait leur cruauté. Sans elle, jamais Hermann n'aurait saboté la direction de cette voiture. Cette voiture dans laquelle devaient monter Maria Tiara et Nicolas. Jamais Hermann n'avait eu l'intention de les tuer. Il voulait seulement se venger. Il voulait simplement que leur fugue échoue, que la voiture devienne impossible à conduire au milieu de la nuit, qu'ils finissent à pied, que Nicolas ravale sa morgue et que Maria ne se donne pas à lui. Il voulait seulement leur faire peur, leur donner une leçon. Lui qui n'avait jamais connu de fille. Il ne voulait pas que les mains de Nicolas souillent la beauté, la grâce, la perfection de ce visage, de ce corps qui l'obsédait. Celui de cette petite pute de Maria Tiara. Jacob Schreiber fixa les rochers qui basculaient en cascade dans la Méditerranée. Il avait à nouveau ralenti. Non, bien entendu, Hermann ne voulait pas tuer Maria et Nicolas. Nicolas devait emprunter la voiture de ses parents ce soir-là, comme prévu, pour aller à la Camargue, cette maudite boîte de nuit, avec Aurelia, Cervone et lui. Nicolas leur avait promis. Mais quelques heures plus tôt, Hermann les avait suivis. Quand il s'était garé sur le parking des Eupprocht, il avait entendu Maria Tiara accepter d'accompagner Nicolas, mais sans tous les autres abrutis du camping. Une virée à deux, qui tournerait court, avait seulement imaginé Hermann en s'allongeant sous la voiture. Comment aurait-il pu anticiper ce changement de programme? Que ce serait Paul Idrissi qui se retrouverait au volant avec sa femme et ses enfants? Qu'il provoquerait la mort de toute une famille? Qui se retrouverait dans la peau d'un assassin alors qu'il n'avait pas 18 ans? 20h56. Arrivé à 21h02. Désormais, pensa Jacob Schreiber, on pouvait programmer sa mort à la minute près. Hermann n'avait rien dit. Les flics avaient conclu à un accident. Hermann ne s'en était jamais remis. Il était responsable de la mort de 3 innocents. Hermann avait passé un trimestre à ne pas pouvoir mettre les pieds à l'école polytechnique, cloîtré dans sa chambre, entre ses herbes et ses étoiles. Il avait fallu près de 30 séances de psy avant qu'Hermann leur avoue, qu'il raconte tout. Tout ce que depuis le 23 août 1989, Anke et lui avaient déjà compris. Hermann continua à voir le psy. Il reprit le violon. Il retourna cueillir des herbes et observer les étoiles. Jacob lui avait trouvé une nouvelle école, moins prestigieuse que l'école polytechnique, une boîte privée, de marketing, où l'on pouvait entrer en cours d'année, suivre des stages. Il le fit entrer chez Bayer, moins pour travailler que pour l'occuper. Hermann allait mieux, Jacob le croyait, voulait le croire, s'en persuader. Le 23 février 1991, exactement 18 mois après l'accident de la Petrakoda, Hermann s'approcha trop d'une cuve de soude sur la chaîne de production qu'il surveillait. Son corps fut dévoré par l'acide en quelques secondes, comme dans ces films de science-fiction où un corps se réduit en une bouillie fumante puis disparaît. Jacob voulut croire qu'il s'agissait d'un accident, seulement d'un accident. 10 ouvriers pourtant, dans l'atelier B3 de la chaîne 07 de l'usine Bayer, avaient vu Hermann faire basculer la cuve et la renverser sur lui. Hermann était un garçon doux et doué. Hermann était promis à un avenir brillant. Il aurait occupé une fonction importante dans une grande entreprise, séduit une femme superbe, vécu une vie en harmonie avec ses idéaux. La vie qu'il méritait, identique à celle que Jacob avait racontée à Clotilde Idrissi avant-hier au téléphone, quand elle l'avait appelé et qu'il s'était fait passer pour son fils. Il n'avait rien inventé, juste décrit la vie qu'on lui avait volée. Anke était morte quelques années plus tard, morte de chagrin. En août 1993, sa femme avait insisté pour qu'il séjourne en Croatie, sur Pag, une île qui rappelait un peu la Corse, ses falaises, ses villages. Un matin qu'elle allait chercher le pain avec la Mercedes, dans un virage au-dessus du vide, elle n'avait pas tourné. Il y avait un mot dans le porte-monnaie qu'elle n'avait pas emporté. Entschuldigung, désolé. Il y eut une enquête. La Mercedes était entretenue avec méticulosité, la direction en parfait état de fonctionner. Depuis, Jacob avait eu le temps d'y penser. Hermann, Anke, avait payé pour une faute qu'il n'avait pas commise. Il avait eu le temps de peser les responsabilités. Oui, la tragédie de la famille Schreiber valait bien celle de la famille Idrissi. Après le 23 août 1989, après l'accident, lorsqu'il avait retrouvé Hermann assis sur les trois marches du mobilhome A31, prostré, Jacob avait deviné que son fils portait une part de responsabilité. Il leur restait 8 jours de vacances, mais dès le lendemain, ils étaient rentrés en Allemagne. Le matin, Jacob s'était rendu dans le bungalow C29, celui des Idrissi. Un bungalow vide. Le cahier de Clotilde, la petite survivante, celui qu'elle traînait toujours avec elle, était posé sur la table de la cuisine, avec les autres affaires que Basile Spinello devait lui apporter à l'hôpital. Il s'était contenté de le prendre, pour comprendre. Pour que personne d'autre que lui ne le lise, au cas où des indices, une preuve quelconque contre son fils, s'y dissimulerait entre les lignes. Il avait lu, relu ce cahier, une fois encore cet été. Non, rien n'y désignait Hermann comme l'assassin, à moins d'être le plus perspicace des amateurs de romans policiers, Clotilde Idrissi n'était au courant de rien. Il existait pourtant un témoin direct, Cervone Spinello. Le 23 août 1989, posté à l'accueil du camping, il n'avait pas lâché Nicolas et Maria Chiara des yeux. Il avait vu Hermann se glisser sous la fuego, puis il avait entendu les adultes parler de direction endommagée. Cervone s'arrangea pour lui faire comprendre qu'il connaissait l'assassin des Idrissi, mais jamais il n'accusa publiquement Hermann, jamais il n'en parla à la police, ni à Cassano Idrissi. Jacob s'était demandé pourquoi, jusqu'à ce que les premières briques de la marina Roque Mare poussent, que le vent souffle plage de l'Ocheluccia sur la paillote du tropicaliste, sans qu'elle s'envole. L'explication crevait les yeux. Cervone Spinello faisait chanter Cassano Idrissi. Il le tenait. Même si Jacob n'avait jamais su par quel moyen, quelle version, quelle fausse vérité il avait inventé. Il savait seulement que Cervone gardait une carte dans sa main, un atout maître. Il connaissait le véritable assassin de Paul et Nicolas Idrissi. Jamais Cassano n'aurait pu soupçonner Hermann Schreiber, ce jeune touriste allemand dont il ignorait l'existence. Jacob jeta un coup d'œil à l'arrière. Valentine ne lisait plus le cahier. Il l'avait entendu le ranger avec précaution dans le sac plastique. Palma Idrissi et sa petite fille étaient immobiles. Seuls leurs cheveux bougeaient, agités par le vent qui passait par les vitres arrière, ouvertes sur une quinzaine de centimètres. Les deux femmes le fixaient. Elles ne devaient distinguer que sa nuque, son épaule, son bras. Et ses deux yeux, qui croisèrent ceux des passagères dans le rétroviseur. Il avait attendu avec sérénité ce mois d'août, revoir une dernière fois la Méditerranée, partager une dernière bière, jouer une dernière partie de pétanque. D'après les médecins, le cancer lui en laissait le temps un dernier été, un seul. Et voilà que Clotilde Idrissi débarquait, fouillait, enquêtait, prétendait l'impossible. Sa mère était vivante, une lubie, une folie, mais elle remuait le passé. Interrogeait Maria Chiara, Natale et Angeli, le sergent Cesareo Garcia et sa fille Aurelia. Ravivait les souvenirs, tirait les suaires des fantômes. Comme il l'avait prévu, elle était venue lui demander tous les clichés de cet été 89. Qui sait si à partir de l'un d'eux, elle n'aurait pas pu deviner la vérité. Il avait parfaitement simulé la surprise devant Clotilde Idrissi lorsqu'il avait ouvert le dossier vide de l'été 89. S'il voulait récupérer les photos stockées sur son cloud, c'était pour les détruire à jamais. Il ne pensait pas que le danger viendrait de Cervone Spinello. Il ne se doutait pas que le patron du camping avait plus encore à perdre que lui. Avant qu'il ne presse la détente, que le harpon ne se plante dans son cœur, Spinello lui avait tout avoué. Le patron du camping avait eu peur, le soir où il était venu lui demander une connexion Wi-Fi pour récupérer les photos. Cervone avait paniqué. Depuis que Clotilde Idrissi était revenue aux Eupproctes, il avait tout fait pour l'effrayer, l'éloigner. Mais Clotilde était tenace, perspicace, touchante aussi. Cervone craignait qu'elle puisse convaincre Jacob de tout avouer, que les deux survivants de ces deux familles décimées par le drame puissent tomber dans les bras l'un de l'autre, qu'ils finissent par soulager sa conscience. Jacob Schreiber crispa ses mains sur le volant. Devant lui, le soleil formait un i de feu, dont le trait incendiait la mer. Oui, Cervone Spinello avait eu peur de tout perdre. Si Clotilde découvrait la vérité, la révélait au grand jour, aux flics, à Cassano, tout son business tombait. Pire même, si le vieux Corse d'Arcanou apprenait que Cervone avait été, il y a 27 ans, témoin du sabotage de la voiture de son fils et s'était tu toutes ces années, il n'aurait sans doute pas hésité à le faire exécuter, qu'il soit ou non le fils de son meilleur ami. Alors, Cervone avait assommé Jacob, sans préméditation, dans la précipitation, en lui écrasant une boule de pétanque sur la tempe. Sans doute l'aurait-il achevé si des campeurs quittant la partie de poker n'étaient pas passés dans l'allée, ne l'avaient pas appelé. Impossible de dissimuler le cadavre, pas le temps de nettoyer la scène de crime. Cervone avait dû quitter le mobilhome A31. Il pensait sans doute revenir un peu plus tard, la nuit, pour terminer le travail. sauf que Jacob avait eu la force de fuir, de se traîner hors des euproctes en emportant de quoi stériliser sa plaie. Depuis 50 ans qu'il arpentait le coin, lui aussi connaissait le maquis. Que pouvait faire Cervone, sinon simuler l'étonnement, le lendemain matin, devant les joueurs de pétanque qui attendaient le vieil Allemand? Sinon faire semblant d'être surpris, devant Clotilde, en découvrant le mobilhome vide? Quel choix avait-il sinon attendre, trembler, espérer que l'Allemand soit allé crever dans un coin, comme un animal blessé et apeuré? Aucun. Jacob avait attendu tranquillement, l'avait laissé mûrir pour le tuer au bon moment. Il devait simplement gagner du temps. Ce noyé non identifié, retrouvé dans la baie de Crovani, en avait été l'occasion rêvée. Sans doute un nageur imprudent, comme on en repêchait presque chaque été. Il avait suffi pour cela que Jacob jette quelques habits, une montre et des papiers du haut de la pointe de Murceta, là où le courant dans la Méditerranée était le plus fort. Les flics ne seraient pas dupes longtemps, et ils ne mettraient que quelques heures, une journée peut-être, à trouver le nom du cadavre, ou au moins à comprendre que le corps décomposé ne correspondait pas au sien. Quelques heures, ça lui suffisait amplement pour endormir la méfiance de Cervone. Le patron du camping ne pouvait pas savoir que Jacob était condamné, qu'il se foutait de la manière d'en terminer, que sa haine, il ne la réservait pas qu'aux Idrissi, qu'il comptait en faire profiter tous ceux d'ici, tous ceux qui avaient confisqué ce paradis. Cervone ne pouvait pas se douter que la douleur et la solitude l'avaient rendu fou, que lui aussi donnait la moitié de sa retraite à un psy, que lui aussi dans l'allée B3 de la chaîne 07 de l'usine Bayer s'était arrêté devant la cuve de soude, qu'il s'était penché jusqu'au vertige au-dessus des rochers blancs de l'île de Pagues, des rochers rouges de la Petracoda, au pied de la Revelata. Jacob n'avait appris que ce matin le secret de Cervone Spinello, celui grâce auquel il bénéficiait de la protection de Cassano Idrissi. Palma Idrissi, vivante. Condamnée par un jury populaire à la place d'Hermann, emprisonnée depuis l'été 1989 dans une cabane de berger. Pendant des années, Cervone avait joué sur les deux tableaux, laissant chacun croire à sa propre vérité. Cassano ignorait le véritable coupable, Jacob Schreiber ignorait la véritable accusée. Cervone n'avait même pas eu besoin de mentir. Son silence suffisait à le rendre maître de la situation, jusqu'au retour de Clotilde Idrissi. Cervone Spinello ne méritait pas de mourir, mais lui planter une flèche dans le cœur n'était au fond qu'une forme patiente de légitime défense. Les Idrissi, eux, le méritaient. Et de souffrir avant de mourir. Sans leurs mensonges sur 3 générations, rien ne serait arrivé. 21h01. Le soleil n'avait pas encore disparu derrière la baie de Calvi. Il flottait au-dessus de la citadelle, tel un spot aveuglant transformant le monde en un théâtre d'ombre. Les yeux de Jacob se brouillaient. Depuis ce matin, depuis cet été, depuis 27 ans, il repassait en boucle, dans sa tête, les mêmes mots. Nous n'étions qu'une famille ordinaire, nous aimions des choses simples. Nous venions passer des vacances au soleil, sur l'île de beauté. Nous ne savions pas que ces beautés brûlaient quiconque s'en approchait, que ces beautés mentaient, qu'elles échappaient à qui voulait les toucher. Nous ne l'avions pas appris à Hermann, qu'on pouvait se damner à la convoiter. Hermann était trop pur, trop différent. Il ne pouvait pas le supporter. Ils l'ont tué. Je vais rejoindre Hank, rejoindre Hermann, le 23 août à 21h02. Une fuego rouge. La corniche de la Petracoda au pied de la pointe de la Revelata. Un homme, une femme, une adolescente de 15 ans. 3 cadavres. Et tout sera bouclé en beauté.